un coin pourri. Cette planète-là, portant le numéro de référence X411, figurait sur notre programme d'exploration systématique. Sa localisation dans la bande de l'eau faisait qu'il était hautement probable qu'elle abrite la vie. À quel stade il nous appartenait de le déterminer. La nef sortit de l'univers jumeau à une dizaine de milliers de kilomètres de distance de la surface de l'astre. Au voisinage, on apercevait une lune plus petite que la nôtre. Le major nota qu'elle semblait présenter un état de cratérisation important, apparemment relativement récent. Nous pénétrâmes dans la zone intra-atmosphérique. Les capteurs pariétaux entrèrent aussitôt en action, la composition était comme d'habitude assez voisine de celle de l'atmosphère terrestre. Comme dans toutes les planètes n'ayant pas subi de dérive de continent, il y avait un immense continent unique, circulaire et plat comme la main, qui occupait toute une partie de la surface, le reste étant occupé par un océan paisible. La masse continentale était grosso modo centrée sur l'équateur. Au moment où nous le survolions, elle se trouvait face à l'étoile, donc éclairée. On voyait la formation nuageuse spiralée liée à cet ensoleillement, un vortex diurne quotidien qui s'affaiblissait chaque soir pour disparaître complètement à la nuit tombée.
« Ah, Mankiewicz, c'est pas encore là qu'on pourra chausser les skis !»
lança le major. Nous poursuivîmes le survol à basse altitude. « Mais c'est Greenland, ici !» Effectivement, l'ensemble du continent était couvert par une végétation relativement rase. Aucun arbre. Des fougères, tout au plus.
« Regardez là-bas, on dirait un terrain de golf. Il y a même des trous !»
Eh ben, si c'en est un, les joueurs qui l'utilisent, ils doivent avoir des tailles impressionnantes, qui chiffrent en kilomètres.
Non, je plaisantais.
Nous choisîmes de nous poser à proximité de la côte. Il n'y avait bien sûr pas de falaises, pas d'oiseaux, pas d'insectes. Par endroits, des plages interminables et à d'autres, des sortes de mangroves où les végétaux avaient les pieds dans l'eau. Dans les mousses qui couvraient le sol couraient des êtres ressemblant à des salamandres, porteurs de branchies comme les axolotes. Nous en capturâmes quelques-uns sans difficulté pour les examiner dans le vaisseau, puis les naturaliser. Nous lançâmes une douzaine de sondes automatiques qui partirent comme des balles traçantes dans toutes les directions. Nous savions que, corrélativement, il ne devait pas y avoir de fosse océanique liée par essence à une tectonique des plaques, de toute évidence absente sur cette planète-là.
« Bon, dit le major, on monte dans le vaisseau pour faire une exploration des fonds marins. »
La nef était largement assez résistante pour nous permettre d'effectuer des recherches dans des fonds plus profonds, ne dépassant pas quelques centaines de mètres. Le major donna à la voix l'ordre à notre vaisseau de passer en vision externe. L'ordinateur de bord afficha alors une image de notre environnement sur la paroi interne, modulo une accentuation ad hoc de la faible quantité de lumière reçue par les ocelles tapissant la paroi externe de notre astronef. On voyait de grandes méduses, des masses de poissons cuirassés, des coquillages nageurs ressemblant à des nautiles. Les fonds étaient tapissés de lisses de mer. Les endroits les plus peuplés se situaient autour de geysers sous-marins, des fumeurs assez nombreux, semble-t-il.
Tout à l'heure, c'est primitif ici, les gars. C'est bizarre parce que la datation des roches telle que nous la mesurons avec les sondes semble indiquer au contraire que cette planète est au moins aussi âgé que la Terre.
Nous émergeâmes de l'eau et décidâmes de pique-niquer sur la terre ferme. La nef se posa et notre tarière vint se figer dans le sol en ouvrant ses pétales de manière à fournir un ancrage assez puissant en cas de coup de vent imprévu. Nous donnâmes à nos habits l'ordre d'acheminer vers nos orifices buccaux la nourriture stockée dans des conteneurs situés au creux des reins en pratiquant des clignements d'yeux codés. Sur une planète dont on ignore tout, il est évidemment exclu de s'exposer librement ou même de respirer son atmosphère. Nos tenues collantes, maintenues automatiquement à 2 mm de la peau par répulsion électrostatique, nous fournissaient automatiquement une ambiance extérieure. Nous voyions la légère brise faire ployer les tiges des fusaires, mais notre épiderme ne pouvait pas la ressentir. Nous étions à la fois immergés dans ce décor et totalement isolés de celui-ci, comme des scaphandriers. Seuls les écrans virtuels affichés devant nous, sur simple demande, toujours par clignement d'yeux codés, nous donnaient des indications sur le degré hygrométrique et la température de notre environnement.
C'est quand même bizarre, vous ne trouvez pas, Menkiewicz, que tout se soit développé, semble-t-il, aussi lentement sur cette planète, comme si le temps était en quelque sorte figé. Regardez ce que nous avons vu dans les fonds marins. On se croirait au début de l'ère primaire. En surface, il semble que la vie vienne seulement de prendre pied sur la terre ferme. Croyez-vous que le temps, je vais parler du temps biologique, puisse s'écouler différemment en différents endroits du cosmos?
J'avoue que je ne savais pas quoi répondre à cette question, et le major s'en aperçut. Je me souvenais d'un voyage que j'avais fait jadis en Islande. J'avais été frappé par la pauvreté de la végétation. Comme il y avait beaucoup d'eau, les prés et les terrains moussus ne manquaient pas, mais les arbres étaient pratiquement absents. J'avais visité la forêt islandaise, un emplacement de quelques hectares, peuplé par ce que nous aurions appelé ici des arbustes. En fait, en Islande, c'est le volcan Laki qui règne en maître sur la faune et la flore. Ses éruptions sont fluorées. Cela signifie simplement que lorsqu'il entre en éruption, pratiquement tout y passe, les animaux comme les végétaux. Les hommes sont toujours prêts à quitter l'île si d'aventure leur ombrageux voisin décidait de se réveiller. Mais le Laki dort depuis quelques siècles. Le fond du cratère est occupé par un lac de couleur blanc-vert. On peut s'y baigner à condition de ne pas trop prendre appui sur le fond de cette baignoire un peu étrange. En effet, l'eau est chauffée par en dessous. Non-nageur s'abstenir.
Oh, Major, regardez, elle est superbe!
Il n'est pas fréquent d'observer ainsi une météorite frôlant une atmosphère en trajectoire rasante. Au lieu de se volatiliser assez rapidement, le bolide peut alors briller de tous ses feux pendant des dizaines de secondes en parcourant tout l'horizon.
Nous noterons ça sur le journal de bord.
La nuit était en train de tomber. La magnétosphère de la planète, très active, révélait alors ses magnifiques couleurs, si intenses qu'elles prenaient même le pas sur le scintillement des étoiles de l'arrière-plan. Soudain, nous perçûmes des lueurs à l'horizon comme si quelqu'un tirait un feu d'artifice. Mais nous savions que ce n'était pas un feu d'artifice. J'avais déjà vu, une nuit étant gamin, une pluie d'étoiles filantes un soir d'été. Là, c'était pareil. Mais au lieu de correspondre à des objets de la taille d'un grain de sable, ces trucs devaient avoir un diamètre de l'ordre du mètre. Bien que le phénomène se déroulât à la limite de l'horizon, on comprenait parfaitement dans la zone intéressée et on devait y voir clair. On comprenait parfaitement que dans la zone intéressée, on devait y voir clair comme un plein jour.
Major, vous savez ce que j'en pense?
Je pense comme vous. Plus vite on aura détalé cette fichue planète, mieux ça vaudra.
Instinctivement, nous étions mis à courir vers la nef. J'entendais la voix du major tout essoufflé.
Ça explique l'intense niveau de cratérisation du satellite. Ça explique aussi pourquoi la vie est restée à ce stade aussi primitif. Elle n'a pas eu le temps de se développer. Et ce terrain avec ses trous?
Le terrain de golf?
C'est évidemment pas un terrain de golf, ce sont des impacts récents. L'air n'avait pas encore eu le temps d'envahir les cratères. Ouverture des trappes d'accès.
Sur cet ordre vocal, la trappe d'accès s'effaça et l'escalier se déroula. Pendant que nous montions à bord, on entendit ces impacts qui ressemblaient à des grêlons. Il ne restait plus qu'à croiser les doigts. La nef s'éleva à quelques centaines de mètres du sol, acquit ses paramètres cinétiques, puis nous basculâmes dans l'univers jumeau. La planète disparut instantanément, de même que son soleil, ses étoiles. Nous étions de l'autre côté de l'univers. Nous avions franchi cette membrane qui séparait les deux mondes à la manière d'une feuille qui délimite deux régions, son recto et son verso. Dans le sas de déconditionnement, le major achevait de se débarrasser de cette nue, dissoute par des solvants. J'attendis qu'il libère la place pour en faire autant. Ayant mis un externe, je voyais notre nouvel environnement, des masses nébuleuses rougeâtres peuplant le jumeau et correspondant à d'immenses distributions de matière portées à 2000 degrés.
Vous savez, Menkiewicz, ce foutu décor du jumeau où nous allons maintenant évoluer pendant des mois m'a souvent foutu le cafard. Mais jamais de ma vie je n'ai été aussi content d'y retourner. Fichtre.